La recluse, huitième partie. Quelle heure était-il? Elle n'en savait absolument rien, et ignorait également dans quel quartier elle se trouvait. La voie dans laquelle ils étaient engagés était large et prolongeait au loin sa longue ligne de becs de gaz. Tout en marchant, Palmer faisait des efforts inouïs pour s'orienter. Mais il avait beau faire, regarder à droite et à gauche, interroger les profondeurs sombres de l'horizon, il ne parvenait pas à se reconnaître. Il en conçut un violent dépit. Et alors, se raidissant dans son obstination, ne voulant pas avouer qu'il s'était trompé, il pénétra dans une rue étroite et longue qui descendait vers la Seine et entraîna avec assurance Edmé, qui crut qu'il avait enfin retrouvé son chemin. Mais à mesure qu'ils avançaient, ses appréhensions lui revinrent. Elle voyait bien que Palmer était sérieusement égaré. « Mon Dieu, qu'allons-nous devenir ? » balbutia-t-elle éperdue. Palmer ôta son chapeau, s'épongea le front de son mouchoir et souffla bruyamment. « Voilà qui est incroyable » grommela-t-il. « Voyez-vous, miss, cela n'est pas aussi étonnant que vous pourriez le penser. Depuis quelque temps, la municipalité de Paris fait opérer des trouées fréquentes dans ses quartiers, et les plus habiles ne s'y reconnaissent plus. » « Si encore nous pouvions demander notre chemin à quelqu'un ?»« Bon, » fit Palmer en un accès de belle humeur, « il y a bien à Paris un grand nombre de policemen, mais cela se passe ici comme dans la libre Amérique, et c'est surtout quand on en a besoin qu'on ne les trouve pas. »« Que faire ? Que faire ?» dit Edmé avec un sanglot. « Prenez mon bras si vous êtes fatiguée, miss, c'est le bras d'un honnête homme, et il saura vous soutenir et vous défendre. » Pour égarer, nous sommes égarés, c'est incontestable. Mais en y mettant de la persévérance, il n'est pas possible. Continuons donc, fit la pauvre enfant avec résignation. Cependant, Palmer était sourdement irrité. Une sueur abondante inondait son visage rubicon, et l'on entendait sa respiration siffler en passant dans sa gorge desséchée. À plusieurs reprises, il fit claquer sa langue contre son palais en feu. « Brigands de marchands de gin !» grommelait-il. « Ce sont eux qui seront cause de ma mort. S'ils ne m'avaient pas volé, comme des convicts effrontés qu'ils sont, je pourrais encore humecter ma langue, qui est plus sèche qu'une éponge. Oh, si j'étais quelque chose dans la police !» Il allait poursuivre, mais tout à coup, la parole resta suspendue sur les lèvres, et brusquement, il s'arrêta. En même temps, un immense soupir de satisfaction soulevait sa poitrine, et il se tournait en souriant vers la jeune fille. Celle-ci ne vit pas son sourire dans la nuit, mais elle comprit que quelque chose d'inattendu, d'inespéré, était survenu, et elle s'en réjouit. « Qu'y a-t-il ? » demanda-t-elle vivement. Palmer étendit son bras vers un point de l'horizon. « Regardez ! » répondit-il. Il y avait à quelques pas, au coin d'une ruelle noire, au rez-de-chaussée d'une maison borgne, une lumière qui brillait à travers des rideaux de cotonnade rouge et répandait des lueurs de sang sur le pavé de la rue. « Qu'est-ce là ? » interrogea encore Edmé. Palmer eut un nouveau sourire épanoui. Chapitre 8. « Ça, miss, » répondit-il avec complaisance. C'est ce que l'on appelle ici un caboulot, ou, pour parler plus clairement, un établissement où, à toute heure de jour et de nuit, le passant altéré peut trouver à se rafraîchir. Ah ! J'espère au moins que vous n'avez pas l'idée d'entrer dans cette maison. C'est cependant là seulement que l'on pourra nous indiquer notre chemin. Laissez-moi faire. Et comme il se dirigeait déjà vers le caboulot, Edmé le retint. « Au moins, vous n'allez pas m'abandonner seule dans cette rue, » dit-elle. Palmer protesta du geste. « N'en croyez rien, » répondit-il, « car j'entends que vous ne me quittiez pas. C'est l'affaire d'un moment, le temps de demander notre route, et après... » Palmer semblait avoir, depuis un moment, recouvré son aplomb et sa solidité. La vue du caboulot, l'espoir d'y trouver ainsi désaltéré, lui avait rendu une partie de sa présence d'esprit. Et c'est d'une main assurée et ferme qu'il ouvrit la porte. Il entra, suivi de près par Edmé, qui se laissait conduire sans essayer de résister. toute observation eût été inutile, elle le comprenait. Et d'ailleurs, elle espérait maintenant que quelques-unes des personnes qu'elle allait voir lui indiqueraient son chemin. Dès qu'elle eut mis le pied dans la salle du rez-de-chaussée, sa confiance ne tarda pas à être fortement entamée. Il régnait là une fumée opaque, une odeur âcre qui la prit à la gorge, et les premiers visages qui frappèrent son regard étaient si repoussants, il y avait une telle expression d'abrutissement sur ses physionomies dont jamais elle n'avait connu d'équivalent, qu'en dépit de sa résolution, elle éprouva un profond dégoût, et qu'en même temps, elle se sentit prise de nouvelles terreurs. Elle chercha Palmer pour se rapprocher de lui et lui communiquer ses inquiétudes. Mais celui-ci avait aperçu le comptoir de zinc, derrière lequel se tenait une énorme matrone, et il s'était fait servir une abondante libation. « Monsieur Palmer !» supplia-t-elle en le touchant de la main. Palmer avala le contenu du verre que l'on venait de lui remplir. Il se retourna réconforté. « Nous y voici, miss !» répondit-il. « Vous voyez, ça n'a pas été long, et maintenant nous allons nous occuper des choses sérieuses. » Mais comme il se disposait à questionner la matrone, son pied s'engagea dans un escabeau placé près du comptoir, et il manqua de tomber. « Ce n'est rien, » dit-il en se raidissant, « et nous en avons vu bien d'autres. Voyons, nous allons partir, ayez confiance en moi. Et si quelqu'un osait ?» Le malheureux était complètement étourdi. La chaleur intense qui régnait dans la salle, la fumée épaisse du tabac, l'odeur combinée des différentes liqueurs alcooliques, tout cela avait agi sur son cerveau, et il commençait à perdre le sentiment de lui-même. Il promena autour de lui des regards hébétés et stupides. « Ah, ça ! Où sommes-nous donc ici ? » balbutia-t-il en tournant autour du comptoir et se dirigeant comme malgré lui vers les tables occupées par les étranges clients du caboulot. « Dieu d'âne ! Je ne m'y reconnais plus, et à moins que ce soit ces gentlemen !» Des rires cyniques l'interrompirent, et il se dressa à la manière des ivrognes. Cependant, les consommateurs du sinistre établissement avaient fini par remarquer le nouveau venu. Et, en le voyant osciller sur lui-même, ils s'étaient mis à échanger entre eux des colibés grossiers, entremêlés de propos ignobles. « Eh bien, il est un rien poivre !» dit l'un. « Où a-t-il pris cette paille ?» ajouta un second. « Il faut aller le remiser !» conclut un troisième. Palmer écoutait sans comprendre, l'œil atone, les bras inertes. Il n'avait pas été initié encore au mystère de l'argot et se contentait de regarder en ébauchant un sourire. Mais bientôt la situation s'accentua et prit une autre tournure. Après avoir accueilli l'apparition de l'ex-capitaine d'armes par une bordée de l'Asie, quelques-uns des consommateurs venaient d'apercevoir Edmé. Et presque instantanément, ils changèrent d'allure et de langage. D'abord, ce fut une impression manifeste d'étonnement. Les jolies filles étaient très rares dans le caboulot de la mère Michel, et en tout cas, quand par hasard quelques-unes s'y égaraient, ce ne pouvait être que certaines malheureuses appartenant au personnel le plus abject de ces quartiers. On les connaissait presque toutes. La matrone les saluait d'un geste cynique, et chaque hôte du bouge savait à qui il avait affaire. Mais ici, c'était bien différent. Jamais encore on n'avait vu un visage plus gracieux, un regard plus doux, un corps plus svelte, une attitude plus décente. On eût dit quelque apparition céleste dans un cercle de démons. L'effet ne se fit pas attendre. Les yeux s'allumèrent, pleins de convoitises ardentes, et l'un des plus audacieux de la bande se leva de table et fit quelques pas vers le comptoir. C'était un grand garçon, habitué du caboulot, ancien boucher, que l'on appelait le Cooper, un spirituel sobriquet sous lequel il était fort connu dans l'établissement. Quant à son autre nom, on l'ignorait. Il avait le front déprimé, les épaules robustes et voûtées, et l'œil, les lèvres, toute la physionomie, enfin, exsudaient la passion et le désir effréné. Il n'avait pas proféré une parole, mais sa poitrine avait des grondements de fauve. Son intention n'était douteuse pour aucun des assistants. On devinait facilement la scène qui allait se passer, et il ne pouvait venir à l'esprit de ces étranges témoins la pensée d'y mettre opposition. Cependant, Edmé n'avait pas fait un mouvement. Réfugiée derrière Palmer, elle ne songeait qu'à fuir. À travers la fumée opaque, elle ne voyait rien et ne comprenait que bien vaguement une partie du danger qu'elle courait. Mais quand elle aperçut le Cooper qui se dirigeait de son côté, qu'elle distingua ses traits repoussants et qu'elle remarqua surtout la hideuse expression de luxure qui faisait briller son regard, son sang se figea dans ses veines. Elle eut l'instinct de ce que voulait cet homme. Et les joues livides, le geste affolé, elle enfonça ses doigts dans le bras de Palmer. Une plaisanterie grossière du Cooper vint encore ajouter à son épouvante. « De quoi, de quoi ?» dit l'ancien boucher en avançant à pas lents avec un rictus ignoble au coin de la bouche. « Est-ce que l'amour vous fait peur ? Ou craignez-vous de rendre jaloux le bulldog qui vous accompagne ?» Une hilarité générale salua ces paroles. On trouva la plaisanterie tout à fait de bon goût, et chacun crut devoir l'appuyer de quolibets nouveaux à l'adresse de Palmer. « Bien envoyé !» dit l'un. « Il est rien batte, le gros vieux !» ajouta un autre. « Et s'il renifle, on l'enverra éternuer à Chaillot !» proposa un troisième. Pendant que ceci se passait, l'attitude de Palmer s'était sensiblement modifiée. Sous l'impression des attaques dont il était l'objet, il avait secoué fortement la tête, à la manière des dogues acculés, et l'ivresse qui alourdissait son sang s'était presque dissipée. Palmer était d'ailleurs très brave, et exceptionnellement, il adorait les bagarres. Il n'avait rien exagéré en disant qu'il était un des plus redoutables boxeurs de la jeune Amérique, et sa réputation n'était plus à faire, aussi bien dans les États du Nord que dans ceux du Midi. Il se mit donc à observer le Cooper, et, prêt à tout événement, pour voir venir, se plaça devant Edmé qui n'osait plus regarder. Le Cooper avait continué d'avancer. Maintenant, il n'avait plus qu'à étendre la main pour le toucher. Il s'arrêta, et d'un air goguenard, s'inclinant humblement, « Alors, dit-il d'un accent traînant, vous prétendez la garder pour vous tout seul ?» « Je ne prétends rien autre chose, » répliqua Palmer. « Pour ce qui est de ça, » riposta le Cooper, « nul ne s'y oppose. Mais quant à la petite, c'est une autre paire de manches, et je me chargerai de la conduire moi-même dans sa famille. » Pour toute réponse, Palmer se tourna avec résolution vers Edmé. « Miss, » lui dit-il d'un ton ferme et grave, « veuillez, je vous prie, me pardonner de vous avoir, par mon intempérance, exposé à de pareilles injures. J'espère que vous sortirez saine et sauve de ce danger où je suis bien coupable. Et je jure que tant qu'il me restera une goutte de sang dans les veines, vous n'aurez rien à craindre de ces misérables. Gagnez donc la porte avec assurance. Je reste, moi, pour vous protéger et châtier ceux qui oseraient s'opposer à votre retraite. » Pendant que Palmer parlait de la sorte d'un air résolu, qui, un moment, réconforta Edmé et lui rendit un peu d'espoir, le Cooper, qui observait le mouvement, exécuta un bond vers la jeune fille, et, avant qu'elle eût fait quelques pas, il lui saisissait le bras d'une main brutale. « Ah, vous me faites mal !» balbutia Edmé d'une voix défaillante. Mais inaccessible à toute pitié, incapable de se laisser toucher, le bandit l'attira impérieusement à lui, et il se disposait à entourer sa taille de ses deux bras vigoureux quand une horrible imprécation de douleur et de rage retentit dans la salle. Cela avait été instantané. Pour ainsi dire, ceux qui regardaient n'avaient rien vu. Mais le Cooper était allé s'aplatir contre le comptoir de zinc, la poitrine sifflante et le visage inondé de sang. Au moment où il se penchait vers Edmé, Palmer lui avait appliqué entre les deux yeux le plus remarquable coup de poing qu'un boxeur eût jamais administré. Il y avait de quoi tuer un bœuf. Un murmure de stupéfaction courut dans les rangs des témoins de cette scène, et chacun se leva pour voir. Pour être vrai, nous devons ajouter qu'il se mêlait à ce murmure étonné une certaine nuance d'admiration. D'ailleurs, ce n'était pas fini, et il était intéressant d'attendre la suite. Le Cooper, un moment étourdi, s'était énergiquement redressé, et à moitié aveuglé par le sang qui coulait en abondance de son front meurtri, il semblait se ramasser pour fondre sur son redoutable adversaire. Seulement, il avait compris tout de suite qu'il n'était pas de force à lutter avec les mêmes armes, et il venait de tirer de sa poche un énorme couteau catalan. « Ah, canaille » grommela-t-il. « Tu veux m'échapper, 1 000 000 000 de tonnerres. Tu ne sortiras d'ici que les pieds de devant. Attends, attends !» Et brandissant son couteau, dont la lame aiguë traçait à travers la buée de sanglants éclairs, il fit quelques pas vers l'ex-capitaine d'armes. Il avait la face convulsée, et de son souffle puissant, il chassait au loin les gouttes de sang qui rougissaient sa lèvre. On ne pouvait rien imaginer de plus hideux. La matrone, qui ne s'effrayait pourtant pas facilement, s'était levée de son comptoir et suppliait d'une voix rauque. « Cooper, Cooper !» disait-elle. « Prends garde à ce que tu vas faire. Tu vas retourner là-bas. La rousse rôde dans la rue, je l'ai vue tout à l'heure. Et si tu es pincé, cette fois ton compte sera bon. » Mais le Cooper n'écoutait plus. Une fureur aveugle s'était emparée de lui et le grisait. Encore un pas, et c'en était fait peut-être de palmaire. Mais à ce moment, il se passa quelque chose d'invraisemblable. Tout à coup, sans transition, sans cause appréciable, la plupart des clients s'enfuirent précipitamment de leur place, et en un clin d'œil, comme par enchantement, la salle se vida presque entièrement. Le Cooper lui-même avait tressailli, et d'un mouvement rapide, refermant son couteau, il avait tourné un regard inquiet vers la matrone. « Qu'est-ce que je te disais ? » fit celle-ci. « Allons, file, et plus vite que ça, tu connais la route. Ne laisse pas traîner tes guêtres plus longtemps ici, car il n'y va pas faire bon tout à l'heure pour les chevaux de retour. » Le Cooper ne se le fit pas dire deux fois, et gagnant le fond de la salle, il détala avec une agilité qu'on ne lui aurait pas supposée. Quant à Palmer, il était resté interdit. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » murmura-t-il en s'adressant à la matrone. Celle-ci haussa les épaules par un geste de douce commisération. « Cela veut dire, répondit-elle, que ceux-ci ont l'oreille fine et qu'ils ont entendu... « Quoi donc ? Le signal, parbleu, êtes-vous sourd ? Quel signal ? » La matrone ne répondit pas. Un coup de sifflet strident et prolongé venait de retentir à peu de distance. « Eh bien, as-tu entendu cette fois ? » reprit la vieille femme. « Ça veut dire que la rousse n'est pas loin et qu'il n'est que temps pour ceux qui ne sont pas en règle. » Palmer comprenait enfin, il n'insista pas. Le dénouement était du reste des plus heureux. Et bien qu'il n'eût pas été mécontent de développer devant une nombreuse société ses talents exceptionnels de boxeur, il se félicitait tout de même, au fond du cœur, d'avoir échappé au guet-apens dont il avait failli être victime. Aussi, après s'être renseigné sur le chemin qu'il avait à prendre, il ne s'attarda pas davantage, et tournant sur lui-même, il se dirigea vers la porte. Mais, au moment où il allait l'atteindre, un bruit se fit au dehors, bruit de pas lourds et de voix aiguës, et presque aussitôt la porte s'ouvrit, et 4 solides gaillards pénétrèrent dans la salle, portant entre leurs bras un homme qui devait être évanoui. 2 ou 3 sergents de ville suivaient. « Voyons, » dit l'un d'eux en s'adressant à la matrone, « nous vous apportons un blessé. Faites descendre un matelas pour le coucher, et que l'on envoie tout de suite chercher un médecin. » Le sergent de ville parlait avec autorité. Il fut immédiatement obéi. Et pendant que l'un des garçons du bouge s'éloignait précipitamment, on apportait 2 matelas sur lesquels le blessé fut aussitôt placé. Edmé et Palmer étaient restés, pris tous les deux d'une ardente curiosité. Edmé surtout. Tous les événements de cette nuit l'avaient bien profondément troublée. Elle était fatiguée, énervée, tremblante encore des sinistres scènes auxquelles elle avait assisté. Un instant auparavant, elle ne désirait qu'une chose, qui était de fuir ce lieu d'horreur et de regagner au plus tôt l'endroit où l'attendaient sa mère et Gaston. Maintenant, un sentiment nouveau l'avait saisie. On eût dit que quelque lien puissant la retenait dans cette salle, où naguère elle avait manqué mourir de peur. Et c'est avec une curiosité haletante qu'elle observait le mouvement qui s'opérait autour du blessé. Toutefois, elle n'osait avancer. Elle se contenait. Mais quand les matelas eurent été étendus près de la cheminée et que le blessé y eut été déposé, quand elle vit que chacun se retirait et qu'il ne restait plus auprès de lui que l'un des sergents de ville, elle vint à son tour jeter un regard sur ce douloureux tableau. Le regard fut rapide et l'effet foudroyant. Elle n'eut pas plutôt aperçu le blessé que tout son sang afflua à son cœur et qu'elle s'affaissa sur elle-même sans proférer un cri. Palmer, qui l'avait suivie, la reçut défaillante dans ses bras. Ce blessé qui était là et qu'elle venait de reconnaître, c'était Gaston. Chapitre 9. Cependant, l'évanouissement de la malheureuse enfant ne fut pas de longue durée. On s'empressa immédiatement autour d'elle. Palmer se multiplia pour lui prodiguer ses soins, et quelques minutes plus tard, elle reprenait ses sens. Presque en même temps, le médecin Mandé faisait son entrée, et Edmé, rendu par cette vue à la réalité de la situation, abandonnait la chaise où on l'avait déposée et allait s'agenouiller auprès de Gaston, qui n'était pas encore revenu à lui. « Vous connaissez le blessé ?» demanda alors le sergent de ville, surpris de ce mouvement. « Oui, oui, monsieur, » répondit Edmé, « et vous comprenez quel intérêt... Quel est-il donc ? Il s'appelle monsieur de Pradel, et il est officier de marine. » Le sergent de ville s'inclina en signe de remerciement et prit note de la déclaration, pendant qu'Edmé se tournait vers le médecin. Ce dernier s'était agenouillé à son tour, et, assisté de Palmer qui l'éclairait, il avait commencé à examiner le blessé. Tout le monde faisait silence alentour, et chacun attendait avec anxiété le résultat de cet examen. Le docteur avait déchiré la fine batiste qui recouvrait la poitrine de Gaston, et après avoir mis la blessure à nu, il en étanchait délicatement le sang avec un linge mouillé. Edmé suivait tous ses mouvements les mains jointes, mordant ses lèvres, comprimant les sanglots qui montaient à sa gorge. Pour elle, il n'y avait plus rien que Gaston. Que lui importaient les témoins de cette scène ? Elle ne cherchait plus à dissimuler sa douleur qui trahissait son amour. Elle ouvrait son cœur sans honte et laissait voir tout ce qu'il contenait et l'inquiète sollicitude qu'elle éprouvait pour le seul être qu'elle eût encore aimé. Tout à coup, elle se dressa à demi et tressaillit. Gaston venait de faire un mouvement. Un soupir douloureux s'était échappé de ses lèvres et ses paupières s'étaient soulevées. « Mon Dieu !» balbutia la pauvre enfant. Et s'adressant au docteur, « Ah, il est sauvé, n'est-ce pas ? » ajouta-t-elle, incapable de se contenir. « Sauvé, oui, » répondit le médecin, « mais il aura besoin de grands soins. La blessure est légère, la lame a à peine pénétré dans les chairs, et j'espère qu'il ne se produira aucune complication fâcheuse. Mais il ne peut rester ici. J'y pensais. Il faut qu'on le transporte chez lui, où il pourra recevoir tous les soins que réclame son état. C'est cela qu'il faut faire, en effet, et je vais m'en occuper. » Cependant, ainsi que l'avait constaté Edmé, Gaston avait ouvert les yeux et promenait ses regards sur cette salle enfumée qu'il cherchait vainement à se rappeler. Il n'était point encore sorti tout à fait de son évanouissement et ne distinguait que faiblement les objets qui s'offraient à lui. Mais peu à peu, le sentiment de la réalité lui revint. Le souvenir de ce qui s'était passé se présenta plus net à son esprit, et quand il reconnut Edmé, agenouillé, tristement souriante à ses côtés, il fit un brusque mouvement pour se lever. Edmé le retint avec une douceur mélancolique. « Ne bougez pas, monsieur Gaston, » dit-elle. « Le médecin l'a ordonné, et il faut lui obéir. »« Vous ? C'est vous ?» murmura le jeune commandant. « Comment vous trouvez-vous près de moi, et où sommes-nous ici ?»« Je vous expliquerai tout cela. Vous avez été victime d'un odieux guet-apens. Vous avez failli être assassiné. Mais Dieu n'a pas voulu qu'une pareille infamie puisse s'accomplir, et l'on est arrivé à temps pour vous sauver. » Dieu merci, votre blessure est peu grave. On va pouvoir vous transporter chez vous. Et là...
Ah, vous ne me quitterez pas,
supplia Gaston.
Non, non,
j'ai tant besoin d'être aimé. Et si vous saviez comme je vous aime. Une vive rougeur monta aux joues d'Edmé à ces paroles, et elle baissa le front sans répondre.
« Vous vous taisez ?»
continua Gaston d'un ton de doux reproche, et en lui prenant la main qu'elle lui abandonna sans résistance.
« Vous hésitez à me donner cette joie d'apprendre que je ne vous suis pas indifférent et que mon amour... »«
Taisez-vous, par pitié, ne parlez pas ainsi !» répondit Edmé.
« Voyez, je suis toute tremblante encore. Cette nuit a été douloureuse entre toutes. Et quand je vous ai vue là tout à l'heure... »«
Cher Edmé,
soyez prudent.
Je ferai tout ce que vous voudrez.
À la bonne heure.
Mais dites-moi, au moins... »
Edmé n'eut pas la force de résister à cette invitation pressante que lui adressait Gaston, les lèvres pâles, les doigts glacés, le regard encore voilé des troubles de l'évanouissement. Elle lui prit les mains et les serra tendrement dans les siennes.
« Oui, oui, » dit-elle en baissant les yeux, « je vous aime comme je n'ai jamais aimé, comme je n'aimerai jamais. J'espère que ce qui arrive aujourd'hui est la dernière épreuve que Dieu ait voulu m'envoyer. » Mais quoi qu'il advienne encore, quelque résolution que mon père doive prendre, je vous jure, Gaston, que je n'aurai jamais d'autre époux que vous, et que ce me sera une joie profonde de vous confier, à vous, le bonheur de toute ma vie. »
Une immense satisfaction éclaira à ces paroles les traits du pauvre commandant, et il baisa avec transport les mains de la jolie enfant interdite. Pendant qu'ils causaient ainsi, tous les deux, seuls, oubliant ceux qui les entouraient, et qui, du reste, ne prenaient plus garde à eux, toutes les dispositions avaient été prises pour le transport du blessé. On était allé chercher une voiture, on y avait installé un matelas, où Gaston put rester allongé pendant le trajet, et il avait été convenu que le médecin et Edmé ne le quitteraient pas. Le trajet était long et on devait aller au pas. Palmer avait été dépêché en avant pour prévenir Bob, afin qu'il se tînt prêt à recevoir son maître. Une fois le transport effectué, Edmé songerait à ce qu'il lui resterait à faire. D'ailleurs, elle était résolue. On eût dit qu'une nouvelle force s'était développée en elle. Maintenant, ce n'est plus d'elle qu'il s'agissait, mais de Gaston. Et l'épouvantable douleur qu'elle avait éprouvée à la pensée de le voir mourir lui avait donné la mesure de son amour. Elle ne voulait plus le perdre de nouveau, et aucune puissance humaine ne ferait sur ce point ployer sa volonté. Et puis, qui était-elle après tout? Depuis que Fanny Stevenson lui avait révélé le mystère de sa naissance, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti jusque-là s'était passé en elle. Désormais, elle se sentait complètement détachée des hôtes de la rue de la Chaussée-d'Antin. Et si elle conservait toujours pour son père un profond et inaltérable attachement, elle n'éprouvait pour Madame de Beaufort qu'un sentiment de dédain, ou tout au moins d'indifférence. Cette révélation lui avait en quelque sorte rendu sa liberté d'action, et elle était décidée à en user pour assurer le bonheur de ce qu'elle aimait. Mais quels moyens employer pour atteindre ce but? Cela resta un secret qu'elle ne confia à personne et qu'elle jugea prudent de cacher avec un soin jaloux. Aussi, quand, le lendemain, dans l'après-midi, Fanny Stevenson, qu'elle avait trouvée au domicile de Gaston, voulut la questionner sur ce point et lui faire part des projets qu'elle avait formés elle-même, Edmé eut un geste mystérieux et lui imposa doucement silence.
« Et si vous le voulez bien, ma mère, » dit-elle, « nous parlerons de toutes ces choses une autre fois. »«
Cependant, il faut prendre un parti, » insista Miss Fanny.
« Je le sais. Ton père peut venir d'un moment à l'autre, il connaît ta fuite du couvent, il apprendra que tu es ici et il viendra. »
« Je le verrai avec bonheur, et j'aurai pour lui la même déférence. »
« Mais ne crains-tu pas ?»«
Je ne crains plus rien, car j'ai mon idée. »«
Quelle est-elle ? » ?»« Je vous le dirai bientôt. Ayez confiance. J'ai beaucoup réfléchi depuis hier. Vous verrez que vous n'aurez pas à vous repentir de m'avoir laissé agir. » Et elle ajouta aussitôt sur un ton singulier, « Seulement, il faut que j'aie avec Gaston un entretien décisif. Il m'aime, j'en suis certaine, presque autant que je l'aime moi-même. Mais il est un point important sur lequel je veux lui demander quelques éclaircissements. Et cette explication ne pourra avoir lieu que lorsqu'il sera tout à fait hors de danger. »
Chapitre 10. Mais le docteur a déclaré que sa blessure était des plus légères.
Et j'en rends grâce à Dieu. C'est donc un peu de patience que je vous demande, et j'espère que vous serez contente de votre fille. »
Edmé n'en dit pas davantage, et elle quitta Fanny Stevenson pour aller au chevet de Gaston. Aucun autre incident ne se produisit ce jour-là, et Edmé ne quitta presque pas le chevet du blessé. Vers le soir, à la suite de la visite du docteur qui s'était retiré après avoir constaté un mieux sensible, Miss Fanny Stevenson était venue prendre place à côté d'Edmé, et tous les trois, délivrés désormais de toute inquiétude grave, se concertaient sur ce qu'ils allaient faire. Il était évident que monsieur et madame de Beaufort ne resteraient pas inactifs et qu'ils emploieraient tous les moyens légaux pour reprendre leur fille. Miss Fanny Stevenson s'exaltait dans sa résistance et sa haine, et elle ne parlait de rien moins que d'en appeler au scandale et de produire les documents terribles qu'elle avait confiés naguère à Gaston. Ce dernier la regardait sans répliquer et soucieux. Au bout d'un moment, il lui prit doucement la main et l'interrogea. « Vous ne dites rien, vous, Edmé, dit-il, et pourtant c'est mon bonheur. » Peut-être le vôtre aussi, qui sont ici en jeu. »
Edmé releva la tête et oublia son regard sur le visage pâle du jeune commandant.
« Je n'ai rien à répondre, dit-elle, car depuis hier, dans l'état de faiblesse où vous étiez, je ne me sentais pas le courage de vous interroger. Mais à présent que le docteur assure que tout danger a disparu, il y a un renseignement que je veux vous demander et que nous avons intérêt à connaître. »
« Lequel ?» fit Gaston, étonné autant peut-être de la question que de la fermeté avec laquelle elle était faite.
« Vous nous avez appris que vous aviez failli être assassiné, mais vous ne nous avez pas fait connaître à quel assassin vous avez eu affaire. »
« Et le commandant a-t-il besoin de le nommer ?»
interrompit impétueusement Miss Fanny. « Cela ne se devine-t-il pas aisément ?»
« L'assassin est Gobson, et c'est madame de Beaufort qui le poussait. »
« Quel but avait-il donc ?» insista Edmé de la même voix assurée. « Ce n'est pas à la vie de Gaston qu'il en voulait, je suppose. »«
Sans doute, » répliqua encore Miss Stevenson, « mais il voulait lui arracher les titres qui établissaient mes droits d'épouse et en même temps la légitimité de ta naissance. »
« Et ces papiers, vous les avez encore ?» continua Edmé, poursuivant obstinément sa pensée.
« Ah, c'est Dieu qui m'a protégée !» répondit Gaston. « Ils étaient trois, et j'eusse été perdu, infailliblement dépouillé, si quelques agents accourus au bruit de la lutte n'avaient mis les misérables en fuite. »
« De sorte que vous avez toujours ces titres auxquels sont attachés l'honneur et la fortune de madame de Beaufort. »
« Comprends-tu ? Fit Miss Fanny d'un air de triomphe.
Edmé retomba pour la seconde fois dans son attitude taciturne et morne, et elle sembla réfléchir profondément. Il y eut un long silence. Fanny Stevenson et Gaston l'observaient avec attention, et ils cherchaient à deviner ce qui se passait dans son cœur. Pourquoi se taisait-elle ainsi? D'où venait son hésitation? Quelle pensée sombre pesait sur son esprit? Miss Fanny eut un mouvement d'impatience.
« Tu te tais, » dit-elle d'un accent amer. « Tu n'éprouves ni colère du passé, ni désir de vengeance pour l'avenir. Ah, tu n'as donc aucune pitié pour les souffrances dont on a abreuvé ta mère. »
Edmé tourna vers Miss Stevenson son visage baigné de larmes et l'attira près d'elle par un geste plein d'abandon et de tendresse.
« Oh, je vous aime, » répondit-elle. « Je vous aime de tout l'amour que vous méritez. et ma vie se passera à vous faire oublier les tortures que vous avez endurées. Mais comprenez-moi bien aussi, chère mère adorée, comprenez bien ce que j'éprouve et pourquoi je ne pourrai jamais me faire un avenir avec le malheur de mon père.
Que dis-tu ?
Il m'aime lui aussi, vous le savez bien, et je ne pourrais être heureuse si je l'abandonnais avec cette épouvantable pensée que sa honte lui viendrait par l'enfant qu'il a si tendrement aimé. Non, non, plutôt le cloître, plutôt la mort. Et je suis bien sûre que M. Gaston ne voudrait pas plus que moi d'un bonheur acheté à ce prix.
Mais quelle est ta pensée ?
Dit Miss Fanny un peu ébranlée.
Quel est ton projet ?
J'en ai un, en effet.
Dis-le-nous.
Plus tard.
Et pourquoi cette discrétion ?
N'insistez pas, ne me troublez pas, surtout, car j'ai besoin de toute ma présence d'esprit, de tout mon sang-froid. Mais ayez confiance en moi, et soyez certains l'un et l'autre que je n'ai d'autre désir que celui d'assurer votre bonheur qui est le mien.
Enfin, que veux-tu faire ?
Edmé eut un doux sourire.
« Je vais prier Dieu de m'éclairer encore, » répondit-elle. « Puis je réfléchirai pendant cette nuit, et demain je vous dirai ce que j'aurai résolu. Voulez-vous ? »
« Il le faut bien. »«
Eh bien, à demain, ma mère bien-aimée. À demain, Gaston, mon fiancé. Et aimez-moi assez l'un et l'autre pour ne pas me demander une action dont le souvenir pèserait éternellement sur ma vie à l'égal d'un remords. »
Ce que fit Edmé le lendemain, nous le dirons plus loin. Mais auparavant, il n'est pas inutile de faire connaître ce qui se tramait rue de la Chaussée-d'Antin, et surtout ce qui s'y était passé à la suite des événements que nous venons de raconter. Ainsi que l'avait deviné Miss Fanny Stevenson, c'était bien Gobson, poussé par Madame de Beaufort, qui avait préparé le guet-apens, lequel devait avoir pour effet de dépouiller le jeune commandant des papiers qu'il portait toujours sur lui. Seulement, il faut être juste, même envers les coquins. La pensée de Gobson n'allait pas plus loin que la spoliation, et son intention n'était point d'attenter au jour de Gaston. Sous prétexte de le conduire auprès de M. de Beaufort, il l'avait attiré dans un lieu désert où deux affidés étaient apostés. Et une fois là, il s'était démasqué tout à fait et avait découvert ses batteries. Mais il avait affaire à un homme qu'il n'était pas facile d'intimider ni de surprendre. Gaston s'était défendu avec une énergie à laquelle les assaillants ne s'attendaient pas. Et une lutte s'était engagée, qui avait mal tourné. Un coup de couteau est bien vite donné, et l'un des deux hommes au gage de Gobson n'aimait pas à flâner longtemps dans les rues la nuit. Il avait donc précipité le dénouement, convaincu depuis longtemps qu'il est plus commode de dépouiller un blessé qu'un homme valide. Cette vivacité avait tout gâté. Gaston était tombé en appelant à l'aide, et au moment où les trois bandits allaient se ruer sur le corps roulé à terre, un bruit de pas s'était fait entendre, et ils avaient dû s'empresser de disparaître. Gobson fut le dernier à s'éloigner. Mais l'affaire devenait mauvaise. Cela ne pouvait plus passer pour une simple rixe. Il jugea prudent d'imiter l'exemple que lui donnaient ses deux compagnons. Il détala donc peu après, disparut dans le lacis des rues étroites et sombres de ses quartiers, et s'étant jeté dans le premier fiacre qu'il rencontra, il regagna lestement l'hôtel de la Chaussée-d'Antin. Madame de Beaufort était déjà rentrée du couvent, et elle l'attendait avec une mortelle impatience. Quand elle entendit son pas dans le couloir qui conduisait à sa chambre, elle fut sur le point de défaillir. Un instant après, Gobson entrait.
« Eh bien »
interrogea-t-elle, l'œil ardent, les doigts crispés. Gobson fit un geste découragé.
« Rien »
dit-il un peu confus.
« Tu ne l'as pas vu ?
Je le quitte à l'instant.
« Mais ces parchemins, ces titres !»
Gobson raconta brièvement ce qui venait d'arriver. Et quand il eut fini, Madame de Beaufort se laissa tomber, accablée, sur un fauteuil.
« Je suis maudite !»
balbutia-t-elle en roulant sa tête dans ses mains affolées.
« Ma fille, mon enfant, c'est fini ! Cette femme nous déshonorera ! Que faire ? Que faire ?»
Et elle resta inerte, affaissée devant Gobson, qui, de son côté, n'osait plus proférer une parole. Ce dernier incident allait singulièrement compliquer la situation. Fanny Stevenson devait devenir plus implacable encore qu'auparavant. Elle trouverait en Gaston un auxiliaire résolu et redoutable, et il n'était pas douteux qu'à eux deux, ils ne parvinssent à éveiller l'intérêt de la justice. C'était terrible. Madame de Beaufort se perdait en projets plus ou moins sensés, et elle se demandait si vraiment elle n'était pas le jouet de quelque abominable cauchemar. Enfin, elle se releva et se mit à faire quelques pas à travers la chambre. « Et elle, Edmé ! » balbutia-t-elle d'une voix brisée. « Où est-elle ? Ne sais-tu pas au moins ce qu'elle est devenue ?»«
Je ne sais rien, » répondit Gobson.
« Mais il faut savoir, cependant.
Demain, dès le jour, je me mettrai en campagne, et je vous promets...
Quelle misère, mon Dieu ! Et quelle destinée pour ma pauvre Nancy ! Car celle-là, c'est ma fille ! Nancy, mon seul amour ! Et qu'espérer pour elle après un tel scandale ? Ah ! Que Dieu ait pitié de nous ! »
Chapitre 11. Sur ces mots, Madame de Beaufort congédia Gobson en lui recommandant de venir le lendemain lui faire connaître ce qu'il aurait appris. Et dès qu'il se fut éloigné, elle rentra dans la chambre, plus désespérée qu'elle ne l'avait jamais été. Elle avait peur. 1000 fantômes vinrent s'asseoir à son chevet. Elle lui donnait la moitié des jours qui lui restaient à vivre pour être au lendemain. Et en effet, elle était loin de se douter de ce qui allait se passer. Pendant toute la matinée du lendemain, une agitation sourde ne cessa de régner dans l'hôtel de la Chaussée-d'Antin. Madame de Beaufort déjeuna dans sa chambre, prétextant une légère indisposition, et M. de Beaufort, tourmenté de vagues inquiétudes, lui ayant fait demander si elle pouvait le recevoir, elle lui avait fait répondre qu'elle ne pourrait accéder à son désir que dans l'après-midi. Elle resta donc seule chez elle, attendant les nouvelles du dehors que Gobson s'était engagé à lui apporter. Ce dernier se présenta vers midi. Il battait Paris depuis le matin et avait appris tout ce qu'il était intéressant de savoir. Madame de Beaufort l'écouta avec une avidité fiévreuse et frissonna au récit des aventures de la nuit précédente. Toutes ses appréhensions se vérifiaient. Fanny Stevenson avait révélé à Edmé le secret de sa naissance. La mère et la fille se liguaient avec Gaston de Pradel, et de la lutte qui ne pouvait manquer de s'engager devait sortir la honte et le déshonneur de M. de Beaufort. C'était l'effondrement complet, la ruine irrémédiable, et elle ne voyait aucune issue à cette impasse où elle s'était elle-même acculée. M. de Beaufort vint la voir vers 2 heures. Elle n'était pas encore remise. De son côté, d'ailleurs, il était horriblement inquiet. Il venait d'apprendre qu'Edmé avait quitté le couvent et, chose invraisemblable mais effrayante, on lui avait affirmé que sa fille avait accompagné Gaston, blessé, jusqu'à sa demeure. Il y eut entre les deux époux une explication violente. Madame de Beaufort s'abandonnait à son désespoir. Elle était désormais incapable de raisonner. On ne pouvait plus la bercer d'illusions. La catastrophe était imminente, il fallait prendre un parti.
Lequel ?
Fanny Stevenson serait évidemment sans pitié, on devait s'attendre à tout de sa part, et il n'était pas douteux qu'Edmé ne se mît de son parti. Monsieur de Beaufort répondait à peine. Une pâleur livide était répandue sur ses traits. Son regard se voilait sous le regard ardent de sa femme. Ses yeux étaient rougis par des larmes qui les brûlaient sans pouvoir couler.
« Et vous êtes là, vous ne répondez pas !»
dit tout à coup Madame de Beaufort en se dressant devant lui, irritée et menaçante.
« Il est bien temps cependant que je sache ce que vous comptez faire, et si je ne dois plus me regarder désormais que comme votre maîtresse. »«
Juliette !» fit le malheureux d'un ton suppliant.
« Eh, ce n'est de prières ni de larmes qu'il s'agit, c'est de volonté et d'énergie. Ah, vous aviez jusqu'à présent réservé le plus pur de votre amour pour l'enfant de cette femme. Et quant à Nancy, ma pauvre fille à moi, il y a longtemps que vous l'aviez repoussée de votre cœur. »
« Ne parlez pas ainsi. »
« Aussi, voyez, vous en êtes bien récompensée aujourd'hui. Est-ce qu'Edmé a souci de vous seulement ? Est-ce qu'elle s'inquiète du scandale, de la honte ?
A-t-elle hésité à suivre cet homme qu'elle aime et dont au premier jour elle fera son amant ?
Ce que vous dites là est indigne.
Vous allez peut-être la défendre.
Edmé est une enfant pure et soumise. Ce sont vos violences, vos injustices qui l'ont poussée à bout.
Mon Dieu, vous l'entendez ?
Hurla Madame de Beaufort éperdue.
Edmé, Edmé, ah, elle ne m'avait pas trompée, moi, du moins, et elle montre à cette heure qu'elle est bien l'enfant de cette Fanny.
En parlant ainsi, Madame de Beaufort s'était mise à parcourir la chambre à pas heurtés. Quand elle revint vers son mari, elle s'arrêta brusquement.
« Voyons, » dit-elle d'un ton saccadé, « je vous demandais tout à l'heure ce que vous comptiez faire, et j'ai besoin de connaître la résolution que vous allez prendre pour décider moi-même la conduite que je dois tenir. Faut-il que je quitte cet hôtel avec ma fille, ou bien encore m'y croire chez moi ? Répondez !»
Monsieur de Beaufort eut un mouvement impatient qu'il ne put réprimer. Il était lui-même à bout de force, sourdement fâché contre le sort, cherchant âprement à sortir de cette situation sans issue.
« Pour Dieu, répliqua-t-il, ne vous abandonnez pas de la sorte et n'aggravez pas par votre exagération la position qui nous est faite. Edmé, je le répète, est une enfant dont le cœur ne s'est jamais démenti et qui, j'en réponds, ne fera rien qui puisse être un danger pour son père. Laissez-moi donc la conduite de cette affaire. » « Ne m'y mêlez plus ce Gobson qui m'a déjà bien plutôt mal servi, et je crois pouvoir vous assurer que sous peu... »«
Quelle est votre intention ?»
interrompit Madame de Beaufort.
« Je verrai Edmé.
Quand cela ?»«
Aujourd'hui même. Et il faudra qu'elle ait bien changé en si peu de temps pour que je n'obtienne pas ce que je compte lui demander. »
Ainsi qu'il l'avait annoncé, Monsieur de Beaufort se rendit le jour même à l'hôtel qu'Edmé habitait avec Fanny Stevenson. Mais on lui dit qu'Edmé était avec elle auprès de Monsieur Gaston de Pradel, qui occupait un appartement dans la maison contiguë. Monsieur de Beaufort n'hésita pas, et quelques minutes plus tard, il sonnait chez le jeune commandant. C'est Bob qui vint lui ouvrir.
« Monsieur de Pradel ? »
demanda Monsieur de Beaufort.
« Le commandant est souffrant en ce moment, » répondit Bob, et le médecin a défendu de recevoir personne.
Mais n'y a-t-il pas auprès de lui ?
Le commandant est seul.
Cependant, on m'avait assuré,
on aura trompé monsieur.
Monsieur de Beaufort n'insista pas davantage. C'était une consigne, il n'avait aucun espoir de la forcer. Il se retira. Toutefois, il ne rentra pas tout de suite à l'hôtel. Il ne voulait pas affronter Madame de Beaufort, et il erra pendant quelques heures dans Paris, en proie à une agitation qui s'expliquait de reste. Ce ne fut que le soir, vers 8 heures, qu'il regagna la rue de la Chaussée-d'Antin. Comme il passait devant la loge, il vit le concierge en sortir et venir à sa rencontre. Il s'arrêta.
« Qu'y a-t-il ? »
demanda M. de Beaufort. Le concierge lui tendit une lettre qu'il tenait à la main.
« C'est une lettre, » répondit-il. « On vient de la porter à l'instant, et j'allais la remettre à Germain. »
Monsieur de Beaufort prit la lettre, jeta un coup d'œil sur la souscription à la lueur du gaz, et frissonna. C'était l'écriture d'Edmé.
« Bien, c'est bien, » dit-il.
Et il courut s'enfermer dans son cabinet. Un instant après, il lisait ce qui suit.
« Cher père adoré, on m'apprend à l'instant que vous êtes venu à l'hôtel et que vous avez demandé à me parler. Je suis bien désolée, car je comprends toutes les inquiétudes que vous devez éprouver, et j'aurais voulu vous expliquer tout ce qui s'est passé. J'allais vous écrire moi-même. J'ai bien besoin de vous voir, de vous rassurer, d'obtenir mon pardon pour la peine que je vous cause, de vous dire surtout que je vous aime, comme jamais peut-être je ne vous avais aimé encore. « Ne vous hâtez pas trop de juger ma conduite. Remettez avant de me condamner. Demain, je vous attendrai toute la journée. Vous viendrez, n'est-ce pas ? J'ai bien pleuré depuis hier en pensant à vous, qui avez été toujours si bon pour moi. Croyez que je vous conserve au fond de l'âme une inaltérable affection contre laquelle rien ne prévaudra. Les larmes m'aveuglent, ô mon bon père. Songez que votre fille vous attendra demain, et que celui sera une grande consolation de pleurer dans vos bras et sur votre cœur. Edmé.
Note de l'éditeur. Le chapitre 12 n'existe pas dans l'édition papier utilisée pour la présente édition. Note du correcteur ELG. Chapitre 13. La journée du lendemain fut attendue par tous avec une impatience qui s'explique, sans qu'il soit besoin d'y insister. Monsieur de Beaufort avait fait connaître à Madame de Beaufort la lettre d'Edmé, et les termes dans lesquels s'exprimait la pauvre enfant avaient communiqué une sorte d'espoir aux hôtes de la rue de la Chaussée-d'Antin. Monsieur de Beaufort ne pouvait penser que sa fille se montrerait impitoyable. Il connaissait son cœur excellent. Et le contact de Fanny Stevenson ne pouvait pas, en si peu de temps, lui avoir fait oublier l'amour qu'elle avait toujours témoigné à son père. Mais que d'appréhension cependant, et que d'inquiétude, le tinrent éveillé pendant une partie de la nuit. Quant à Edmé, on eût dit qu'après avoir écrit à son père, un grand apaisement s'était fait en elle. La fièvre qui l'agitait s'était calmée. Une sérénité radieuse éclatait maintenant sur son front, et quand par hasard un voile passait sur son regard, il était promptement dissipé, et un sourire d'une ineffable douceur venait relever le coin de sa lèvre. Le matin du jour suivant, elle se leva de bonne heure. Fanny Stevenson entra dans sa chambre dès qu'elle fut levée, et après l'avoir baisée longuement au front, la retint un moment étroitement serrée contre sa poitrine. « Ainsi, tu es bien décidée, » lui dit-elle d'une voix émue. « Oui, chère mère, bien décidée, » répondit Edmé en la regardant dans les yeux. « Tu ne regretteras rien. Rien, rien, croyez-le. Mais vous-même, vous m'avez dit, « Moi, je n'ai qu'une pensée, ton bonheur, et si tu es heureuse, ah, c'est la réalisation de mon rêve le plus cher, et quoi qu'il arrive, » Elle allait continuer, elle s'arrêta brusquement. On venait de sonner. « Mon père !» balbutia la pauvre enfant en devenant subitement pâle. « Ce ne peut être lui encore !» répliqua Fanny Stevenson. « Il est à peine 9 heures. »« Qui cela peut-il être alors ?» Fanny Stevenson alla ouvrir. C'était Bob. Edmé eut un cri d'effroi. « Qu'y a-t-il » fit-elle en se précipitant vers Bob. « Monsieur Gaston ?» « Le commandant a passé une fort bonne nuit, » répondit le novice, « et il vous présente tous ses respects. Seulement, il a reçu ce matin une lettre, sous l'enveloppe de laquelle il y en avait une seconde qui vous était adressée, et il m'a ordonné de vous la porter immédiatement. » En parlant ainsi, Bob remit à Edmé une lettre, dont celle-ci s'empressa de déchirer l'enveloppe. Elle courut à la signature. Elle était de Mariette. Il y avait longtemps qu'Edmé n'avait entendu parler de la jolie pensionnaire de Sainte-Marthe, et ce lui fit une grande joie d'avoir de ses nouvelles. La lettre avait 8 pages d'une écriture menue et serrée, et on voyait que la petite Mariette avait voulu rattraper le temps perdu. Edmé ne remit pas à la lire. Elle congédia Bob aussitôt en le priant de prévenir Gaston qu'elle irait bientôt lui faire connaître le résultat de l'entretien qu'elle allait avoir avec son père. Et comme Fanny Stevenson jugea que sa présence ne pouvait plus lui être utile, elle suivit le jeune novice, laissant sa fille tout entière à la lettre qu'elle venait de recevoir. Dès qu'elle fut seule, Edmé en commença la lecture. Et à peine eut-elle jeté un coup d'œil sur les premières lignes, qu'une expression de profond étonnement se répandit sur ses traits. La lettre était datée de Kerbrat, près de Saint-Renan, Finistère, et elle portait en grosses lettres soulignées ces mots qui étaient une révélation. « Madame de Palonnier, née Mariette du Parc, à Mademoiselle Edmé de Beaufort. » Et elle continuait ainsi qu'il suit. « Je vois d'ici ton étonnement, cher Edmé. Tu lis et relis cette ligne que je viens d'écrire, et tu as peine à en croire tes yeux. Pourtant, rien n'est plus vrai. La petite Mariette n'est plus. » Elle s'appelle maintenant Madame de Palonnier. Comprends-tu? Et si tu savais comme je suis heureuse? Ah, le bonheur! On m'avait toujours dit que ça ne dure pas. Chaque soir, je pensais, demain, ce sera fini. Eh bien, pas du tout, car chaque jour, ça recommence. Il est vrai qu'il n'y a guère qu'un mois que je suis mariée,
mais ce mois-là, on ne le donnerait pas pour tous les trésors de ce monde et de l'autre. Depuis que j'ai quitté Paris, je t'ai écrit un paquet de lettres, les unes à Sainte-Marthe, où tu n'es plus sans doute, puisque tu ne m'as pas répondu. Je t'en félicite. Mais je t'ai écrit également rue de la Chaussée-d'Antin, et tu ne m'as pas répondu davantage. Où es-tu donc? Qu'es-tu devenu? Alors l'idée m'est venue de placer ma lettre sous l'enveloppe de celle que Maxime écrit à Monsieur Gaston. Et je suis tranquille désormais, car je suis assurée que le commandant saura bien te dénicher. Pauvre cher, il me semble que je t'aime encore plus qu'avant. Le mariage, c'est bien drôle, va. Tu verras cela toi-même, et j'espère que ce sera bientôt. Mais je veux te raconter par le menu comment ces graves événements se sont accomplis et par quelle suite d'enchantement j'ai passé. Tu sais, n'est-ce pas, que Maxime et moi, nous sommes deux orphelins. Comme moi, il a perdu son père et sa mère quand il était encore tout jeune. Et lorsqu'il eut l'idée de me demander en mariage, c'est à moi-même qu'il s'adressa pour obtenir ma main. Il y avait longtemps que cette main-là me démangeait. Je l'aimais déjà pour tout le bien qu'il m'avait fait, le soin qu'il avait pris de mon enfance, et ma reconnaissance n'attendait qu'un signe pour se changer en amour. On aime comme cela qu'une fois dans sa vie, et je n'y mis pas de résistance. D'ailleurs, je sentais bien qu'il m'aimait. Il n'est pas besoin qu'on vous apprenne ces choses-là. Dès qu'il me parla de mariage, j'acceptai tout de suite. Et le parloir de Sainte-Marthe doit avoir gardé le souvenir des transports de joie auxquels Maxime s'abandonna lorsque je lui avouai que je serais heureuse de devenir sa femme. Dès le lendemain, je quittai le couvent, et le soir même, nous prenions le train de Brest. Il y a non loin de notre premier port de guerre sur la côte ouest, un petit manoir du XVe siècle qui est habité depuis de longues années par une vieille tante de Maxime, la seule parente qui lui reste. Elle a 75 ans, on ne lui en donnerait pas 60. Elle est vive, alerte, bienveillante, avec deux yeux pétillants d'esprit et de malice. Dès le jour où je lui fus présentée, je sentis que j'allais l'aimer comme si elle avait été ma mère. Elle m'accueillit d'ailleurs tout de suite comme son enfant, et pendant que Maxime allait s'occuper des préparatifs du mariage, je vécus avec elle. Au surplus, ce ne fut pas long. Maxime avait hâte de m'appeler sa femme. Et moi, pourquoi le cacher? J'avais autant d'impatience que lui. Ce fut un bien beau jour. Nous avons reçu la bénédiction nuptiale dans la petite église du bourg. Nous n'avions autour de nous que quelques amis de Maxime et quelques relations de notre tante. Mais Maxime et moi, nous ne nous occupions guère de cela. Nous avions le ciel dans notre cœur ému d'une sainte émotion. Et nous étions heureux à rendre jaloux tous ceux qui nous regardaient passer. Ce fut simple et grand, comme le bonheur même. J'étais pénétrée d'une sorte de crainte délicieuse, de trouble ineffable. Il me semblait que pour la première fois, j'allais mettre le pied dans un monde nouveau, inconnu, mystérieux surtout. On eût dit que Mademoiselle Mariette allait disparaître. C'était en quelque sorte une terreur qui me prenait partout, et au fond de laquelle il y avait une sensation exquise. C'est difficile à expliquer. Tu verras quand tu seras Madame de Pradel. Car tu seras Madame Gaston, comme je suis Madame Maxime. Et quoique tu m'en aies rien dit, j'ai bien deviné que tu l'aimais. Donc, voilà un mois que nous sommes mariés. Et si tu savais de quels enchantements est faite cette vie à deux, dans une solitude mélancolique et tendre, avec les grands aspects de l'infini que la mer développe devant nos yeux. Il est convenu que nous vivrons ici quand Maxime sera débarqué et que j'y resterai près de sa tante quand il sera absent. Moi, cela m'est fort indifférent. Avec lui, j'habiterai où il voudra. Sans lui, que m'importe le lieu où je vivrai en attendant son retour. Mais il ne faut pas prévoir les malheurs de si loin. Pour le moment, voici ce que nous avons résolu. Demain, nous quittons le manoir et nous nous envolons vers Paris. Tu entends bien? Paris! Nous y serons presque en même temps que cette lettre. Maxime veut que je voie l'Italie. Avec lui, j'irai en Chine. Prépare-toi donc, mon cher trésor, à revoir Madame de Palonnier.
Résigne-toi d'avance à recevoir les nombreuses confidences qu'elle grille de te faire, et crois toujours à la profonde et inaltérable affection de ta Mariette.
Chapitre 14. La lecture de cette lettre communiqua à Edmé une bien douce émotion, et elle eut pour effet de la distraire pendant quelques minutes des sombres pensées qui assiégeaient son esprit. La petite pensionnaire de Sainte-Marthe n'avait pas changé. Même au milieu de son bonheur, elle restait la même, vive, rieuse, expansive, incapable de rien dissimuler de ses impressions les plus intimes. Edmé la retrouvait tout entière, et elle souriait à son image charmante qui se représentait à elle, comme au beau jour du couvent. Car maintenant, après les épreuves par lesquelles elle avait passé, sous l'empire du trouble qui lui était resté des événements accomplis, c'est avec une sorte de jouissance pénétrante et douce qu'elle évoquait parfois les souvenirs de Sainte-Marthe. Elle était heureuse alors. Du moins, aucun souci sérieux n'empoisonnait les joies sereines auxquelles elle s'abandonnait. Elle ne voyait rien au-delà de cet horizon que lui faisait l'amour de son père. Et si elle eût été consultée, peut-être n'eût-elle pas demandé autre chose que la continuation de cette vie monotone et calme. Mais depuis, d'autres sentiments plus puissants s'étaient fait jour dans son cœur. Des aspirations nouvelles s'étaient emparées avec autorité de son esprit. Et il lui était venu des doutes mauvais, des désirs inquiets qui avaient modifié sa vie. Que n'eût-elle pas donné pour retourner en arrière ? Pour revivre quelques jours dans la sécurité du cloître, inconsciente du bonheur mondain, indifférente à ce bruit, ce mouvement, cette agitation, qui l'avait comme grisée et avait altéré la pure sérénité dont elle jouissait naguère. Mais non, à la réflexion, elle eût refusé ce retour vers le passé. Désormais, elle sentait bien que c'était impossible. Maintenant, elle aimait. Et elle eût préféré mourir plutôt que de renoncer au bonheur que lui promettait l'amour de Gaston, et dont la lettre de Mariette lui apportait un avant-goût exquis. Il n'en fallut pas davantage pour la rappeler à la gravité de la situation. Son père allait venir, et elle avait besoin de tout son courage pour affronter cette entrevue. Son père ! La pauvre enfant était bien émue, et son cœur se brisait chaque fois qu'elle pensait au chagrin qu'elle avait dû lui causer depuis quelques jours. Elle le connaissait bien, et elle savait qu'il avait dû cruellement souffrir. C'était le scandale, la honte, que la curiosité publique allait audacieusement exploiter. Si elle avait réfléchi avant de fuir le couvent et d'accompagner Gaston, peut-être eût-elle hésité. Elle n'avait pas compris tout de suite l'énormité de sa faute. Maintenant, elle avait peur. Mais il était trop tard. Après tout, mieux valait encore qu'il en fût ainsi. Dans la situation présente, il fallait prendre un parti, et quel qu'il fût, il serait toujours préférable à l'avenir qui lui était réservé. Si son père l'aimait réellement, il devait lui-même s'applaudir de cette obligation qui lui était faite de prendre une résolution définitive. Toutes ces pensées se succédèrent rapidement dans son esprit, et elle ne conserva plus bientôt que cette sorte d'appréhension vague qui vous prend toujours à la veille d'événements importants. Il était 11 heures, elle avait déjeuné sommairement, et elle passa aussitôt dans sa chambre. Elle y arrivait à peine quand on sonna. Elle tressaillit et prêta l'oreille. La bonne était allée ouvrir, et elle entendit la voix de son père qui demandait Mademoiselle de Beaufort. Un flot de larmes monta à ses yeux pendant qu'un sanglot s'étouffait dans la gorge. Mais elle se raidit. On était entré, des pas traversaient la première pièce, puis la porte de sa chambre s'ouvrit, et Monsieur de Beaufort parut sur le seuil. Il était affreusement pâle. Edmé ne fut pas maîtresse d'un premier mouvement. Le visage couvert de larmes, elle courut se réfugier dans ses bras. Et pendant quelques secondes, ce fut un murmure confus de paroles caressantes et douces et de baisers donnés et rendus. Enfin, Monsieur de Beaufort se dégagea comme à regret de l'étreinte de sa fille et l'enveloppa longuement d'un regard attristé et douloureux. « Ah, malheureuse enfant ! » dit-il. «
Est-ce donc ainsi que nous devions nous revoir ? Mon père, mon bon père, supplia Edmé, vous m'aimez toujours. Dites-moi que vous m'aimez. Mais est-il possible qu'il en soit autrement ? Mon Dieu, tu as été bien cruelle cependant, et je ne croyais pas que jamais j'aurais à souffrir par toi. Pardonnez-moi. Moi-même, pensez-vous que je n'ai pas été malheureuse ? Comment, en un instant, as-tu pu changer à ce point ? Il y a autour de toi des influences qui ont abusé de ta candeur. Toi seule, tu n'aurais pas imaginé une pareille révolte. Ne parlez pas ainsi. Ne dis-je pas la vérité ? Non, non, je vous jure, et si quelqu'un est coupable, c'est moi seule. Ne cherche pas à me tromper, car je sais tout. Et cette femme, ce Gaston de Pradel... Gaston ? Fit Edmé avec un cri indigné. « Vous parlez de Gaston, mon père ? Mais vous savez bien que je l'aime, je vous l'ai avoué. Et à cette heure, il serait ici près de moi, si un odieux guet-apens n'avait mis ses jours en danger. »«
Un guet-apens ? » répéta Monsieur de Beaufort en frémissant. « Que signifie ? » ?»«
Ah, je me doutais bien que vous l'ignoriez. »«
Que veux-tu dire ? »
Je veux dire que la nuit dernière, une tentative d'assassinat a été commise sur Monsieur de Pradel, que l'assassin est un nommé Gobson, et si vous ne connaissez pas cet homme, Madame de Beaufort n'ignorait pas, elle, le meurtre qu'il préparait.
Monsieur de Beaufort passa sa main sur son front où perlait une sueur froide. « Gobson ! » répéta-t-il avec un vague soupçon de la vérité. « Tu es sûr de ce que tu avances ?»
Et Gaston vous le confirmera lui-même si vous voulez le venir voir.
Et quel intérêt ?
Vous le demandez ?
Je cherche.
Eh bien, ne cherchez pas, mon père, car je vais vous le dire. Depuis quelques mois, Miss Fanny Stevenson avait confié à Monsieur de Pradel des papiers, auxquels sont, paraît-il, attachés l'honneur et la fortune de Madame de Beaufort. Et c'est pour lui soustraire ces documents que l'on n'a pas reculé devant un crime.
« Mais la tentative a échoué.
Dieu veillait sur les jours de Gaston.
De sorte que les documents dont tu viens de parler,
ils sont toujours en la possession de Miss Stevenson. »
Une ombre glissa sur le front de Monsieur de Beaufort. Il jeta un regard soupçonneux, presque craintif à sa fille.
« Ainsi, » dit-il peu après d'une voix hésitante, « ainsi... « On t'a tout appris. »«
Oui, mon père, » répondit Edmé en baissant les yeux.
« Tu sais, alors ?»«
Je ne sais qu'une chose, c'est que Miss Stevenson est ma mère, et que je l'aime presque autant que je vous aime. »
Monsieur de Beaufort détourna la tête et fit quelques pas à travers la chambre pour chasser l'émotion violente qui le gagnait. Il y eut donc un silence de quelques minutes, au bout desquels il revint près d'Edmé, qui, de son côté, avait beaucoup de peine à contenir les sentiments multiples qui emplissaient son cœur.
« Ce que tu viens de m'apprendre est fort grave, » dit enfin le malheureux père,
« et explique, sans la justifier tout à fait, la conduite que tu as tenue. Mais si je consens à ne pas revenir sur les faits accomplis, du moins, m'est-il impossible d'admettre que tu restes plus longtemps dans la position que tu as choisie ?
Et pourquoi donc ? Répéta vivement Edmé. Réfléchis, mon enfant.
J'ai réfléchi, croyez-le, et je ne vois pas qu'il soit malséant qu'une fille demeure auprès de sa mère.
Monsieur de Beaufort se mordit les lèvres.
Soit, soit, dit-il, mais tu n'as pas songé que j'ai aussi des devoirs à remplir, et que le monde me blâmerait si.
Le monde ! Interrompit Edmé. Et qu'ai-je à me préoccuper de ce qu'il pense de moi ? « Le monde ne se résume-t-il pas tout entier en vous, ma mère et mon fiancé ?»«
Cependant,
n'essayez pas de me convaincre. Depuis longtemps, j'ai bien pensé à l'avenir qui m'est réservé, et j'ai pris une résolution irrévocable. »«
Au moins, tu me diras... »«
C'est pour vous entretenir de cette grave détermination que je vous ai écrit, en vous priant de me venir voir. »«
Enfin, qu'as-tu résolu ?»
Edmé se laissa lentement tomber aux genoux de son père et lui prit les mains, qu'elle retint quelques secondes sous ses lèvres.
« Mon père, » dit-elle d'une voix sous la défaillance
de laquelle on sentait une grande fermeté voulue. « Mon père, avant de m'éloigner, je vous conjure de bénir votre enfant. »
Monsieur de Beaufort dégagea vivement ses mains et fit un brusque mouvement de recul.
« T'éloigner ? » s'écria-t-il. « Tu veux partir ? Me quitter ?»
Chapitre 15.
« Oui, mon père, » répondit Edmé.
« Mais tu n'as pas pensé à l'affreux chagrin que ton départ me causerait ?
Mais c'est le seul moyen de tout conjurer.
Partir ? Me laisser seule ? T'unir à mes ennemis ? Ah ! Dieu réservait de bien cruelles épreuves à ma vieillesse.
Croyez-vous que mon cœur ne se brise pas aussi à une pareille pensée ?
Mais où iras-tu ?
J'irai où le voudra mon mari.
Monsieur de Pradel ? C'est lui qui te conseille.
C'est pour lui.
Mais tu ignores donc quels projets sont les siens et ce qu'il prépare de concert avec cette Miss Stevenson dont tu parlais tout à l'heure.
Ma mère ?
Oui, oui, ta mère, qui n'a plus qu'une pensée désormais, qui veut répandre la honte sur les derniers jours de ton père, qui ne reculera devant aucun scandale pour satisfaire sa haine et assurer sa vengeance.
C'est Madame de Beaufort qui a dit cela.
Mais qu'importe si elle a dit vrai ?
Madame de Beaufort s'est trompée.
Comment ? Il est possible qu'elle eût agi ainsi, elle, si elle se fût trouvée dans la dure position de Miss Stevenson. Mais vous n'avez plus de semblable danger à redouter.
Que signifie ?
Cela signifie qu'avant de m'éloigner, j'aurai écarté de vous toute appréhension pour l'avenir.
Monsieur de Beaufort regarda son enfant avec un profond étonnement, cherchant à comprendre le sens ambigu des paroles qu'elle venait de prononcer. Edmé s'était dirigée vers un petit meuble de boule placé entre les deux fenêtres de la chambre et elle venait d'en ouvrir un des tiroirs.
« Que fais-tu ? »
interrogea avidement Monsieur de Beaufort. Edmé se retourna tristement, souriante, vers son père. Elle tenait à la main une enveloppe qu'elle venait de retirer du meuble de boule et qu'elle lui présenta d'un geste attendri.
« Il y a sous cette enveloppe, » dit-elle, « deux documents importants qui pouvaient menacer la sécurité de Madame de Beaufort et la vôtre. Miss Stevenson, cédant à ma prière, a bien voulu me les remettre, approuvant d'avance l'usage que j'en comptais faire. L'un de ces documents est la copie authentique de l'acte au terme duquel Monsieur le comte de Cimier s'est uni en mariage à Miss Fanny Stevenson, et Madame de Beaufort pourra le détruire elle-même.
Quant à l'autre ?
L'autre ? Répéta Monsieur de Beaufort d'un ton anxieux.
C'est mon acte de naissance à moi.
Que dis-tu ?
Et vous jugerez s'il ne vous convient pas de le détruire également, pour être bien sûr qu'il ne reste plus aucun vestige du passé. »
Monsieur de Beaufort eut un cri douloureux et se cacha le front dans les deux mains.
« Cruel enfant ! »
balbutia-t-il d'un accent brisé.
« Que t'ai-je donc fait pour me torturer ainsi sans pitié ?»«
Mon père ! Mon père ! » supplia Edmé.
« Tu ne veux donc plus que je t'appelle ma fille ? » ?»«
Je n'ai pas dit cela. »
« Tu as oublié en un jour l'amour dont j'ai entouré ton enfance. Tu veux m'abandonner, me laisser seule, maintenant que je suis vieux et las de la vie ? Tu veux que je meure dans l'isolement et le désespoir ?
Ne le croyez pas.
Ah, tu me fais payer bien cher une faute que je voudrais racheter au prix de tout mon sang.
Pardonnez-moi.
Me quitter, toi ?
Poursuivit Monsieur de Beaufort.
Toi qui es ma seule consolation, et que j'aimais de tous mes regrets, et de tous mes remords du passé. Ce châtiment manquait à mon supplice, et c'est ma fille, mon Edmé.
La pauvre enfant se jeta éperdue dans les bras de son père. Jamais elle n'avait surpris une telle douleur sur ses traits, et elle en était épouvantée. Elle le serra follement contre son cœur.
Non, non. « Dit-elle. Ne pleurez plus, je vous en conjure. Écoutez, je ferai ce que vous voudrez. Je n'aurai d'autre volonté que la vôtre. Par pitié, ordonnez. Dites ce qu'il faut que je fasse. J'aimais Miss Stevenson pour tout ce qu'elle a souffert. Eh bien, je ne la verrai plus. Est-ce là ce que vous voulez ? Gaston est le premier homme auquel j'ai rêvé de confier le bonheur de toute ma vie. C'est le seul que j'aimerai jamais. Dites un mot, mon père. » et je vous jure que je ne prononcerai plus son nom devant vous. Ces deux sacrifices, je vous les offrirai comme preuve de mon affection. Qu'importe que j'en meure, pourvu que j'assure ainsi votre sécurité et que je vous voie heureux. Je retournerai au cloître. Le monde m'y oubliera. Gaston lui-même finira par aimer une autre femme. Tout. Je consens à tout, entendez-vous bien? Pourvu que vous me regardiez comme autrefois, et que je ne vois plus de larmes dans vos yeux, mon père. Ah, répondez-moi au moins, et dites-moi que vous êtes content de votre enfant. »
Monsieur de Beaufort était incapable de répondre. Les pleurs l'aveuglaient. Sa gorge serrée était étouffée de sanglots. Jamais il n'avait éprouvé une plus poignante émotion. Enfin, il secoua la tête avec force, prit la tête d'Edmé dans ses mains, enfonça ses doigts frémissants dans les flots de sa chevelure opulente et l'embrassa à diverses reprises avec des transports de joie.
« Tais-toi, tais-toi » dit-il d'un accent plein de désordre. « Tu es ma fille, mon enfant adoré, et je mourrai plutôt que de porter atteinte à ton bonheur. Je verrai Gaston. Il est digne de toi et de l'amour que tu as conçu pour lui. Laisse-moi faire. Aie confiance en mon affection. » Et je jure Dieu que rien ne viendra plus menacer le bonheur que tu as si bien mérité.
Qu'ajouter à ce qui précède? Quelques lignes seulement. Un mois plus tard, Gaston de Pradel, complètement rétabli, épousait Mademoiselle Edmé Stevenson, et les deux jeunes époux partaient pour l'Italie, où ils allaient promener leurs rêves de bonheur. Ils devaient y retrouver Mariette et Maxime, qui les y avaient précédés, et qui leur avait donné rendez-vous à Venise. Mais Gaston et Edmé n'allèrent pas jusque-là. Ils avaient trouvé sur leur chemin, à quelque distance de Menton, une jolie petite villa enfermée sous les arbres, en face du splendide panorama de la Méditerranée, et ils s'étaient arrêtés dans ce nid charmant que le hasard leur présentait. Ils y restèrent toute la saison. Ils étaient heureux autant que deux créatures humaines peuvent l'être en ce monde, et nous n'avons qu'à fermer le livre sur ce dernier chapitre de leurs amours. Quant à Miss Fanny Stevenson, on ne la vit plus que de loin en loin. Elle ne demandait qu'à voir sa fille heureuse, et chaque fois qu'elle vint la trouver, soit à Nice, soit à Paris, elle emporta la certitude de son bonheur. Que lui fallait-il de plus? La haine s'était éteinte peu à peu dans son cœur. Elle avait appris que le comte de Cimier n'était pas aussi coupable qu'elle l'avait pu croire. Après l'avoir abandonné, le remords l'avait pris, et il était revenu pour réparer autant que possible le mal qu'il avait fait. Mais à Québec, comme à Smithton, personne ne put lui donner des nouvelles de Fanny. Elle avait disparu, et son père faisait bonne garde autour du phare. L'enfant seul restait, et il l'avait emporté. D'ailleurs, à quoi bon revenir sur ce passé cruel? Fanny Stevenson consentait à tout oublier depuis qu'elle ne se sentait plus menacée, et elle avait pardonné depuis que le bonheur de son enfant ne pouvait plus être troublé. Toutes les mères lui donneront raison.